Bonjour à tous. Donc bienvenue pour la restitution de notre enquête annuelle sur la conjoncture transport que l'on mène auprès de la communauté des transporteurs. Donc moi je suis Luc Chambonnière, je suis directeur au sein de PwC. Je suis notamment en charge là de l'offre conseil à destination des prestataires de transport. Donc peut-être avant d'attaquer la présentation en tant que telle, quelques précisions sur son déroulement. Donc on est ensemble pour 1 heure, dont une dernière partie qui va être consacrée à une séance de questions-réponses. Donc vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions au fil de l'eau dans un canal qui est prévu à cet effet. Il y aura peut-être des sessions d'interactivité aussi qui vont être prévues durant la session sur ce canal. Si toutefois on n'avait pas le temps de traiter la totalité des questions que vous allez poser en séance, bah on pourra y apporter une réponse ultérieurement. Et enfin, deuxième point, donc à l'issue de ce webcast, n'hésitez pas à rester connecté quelques instants pour répondre à un questionnaire de satisfaction pour nous permettre de nous améliorer, je dirais, voilà, pour les prochaines éditions. Donc je vais être accompagné pour cette session par Sabrina et Olivier que je vais laisser se présenter.
Bonjour à tous, donc Sabrina Ziane, manager chef de projet chez PwC.
Et bonjour à tous également. Merci de m'accueillir. Olivier Mirio, je suis le directeur commercial et marketing chez XPO Logistique France.
Donc quelques mots maintenant sur la démarche adoptée, sur le périmètre du sondage. Donc tout d'abord, ça me semble utile de préciser qu'il s'agit, voilà, de la 14e édition de ce sondage qui a été réalisé sur un panel de transporteurs français. Donc chaque année, en fait, on interroge le marché en posant les mêmes questions. Ça permet effectivement de pouvoir apprécier l'évolution de celui-ci. Et ces questions, je dirais, un petit peu standard, elles sont complétées chaque année par des thèmes d'actualité. Donc les chiffres par rapport à l'édition de cette année. Donc on a eu un petit peu plus de 100 transporteurs qui ont répondu au sondage. Celui-ci il a été réalisé sur une période d'un mois à partir de la fin du mois de septembre. Donc ce qu'on peut voir un petit peu dans le profil des répondants, bah, c'est que la majeure partie en fait des transporteurs qui ont répondu, ils opèrent sur le mode routier avec effectivement une grande diversité dans les segments de transport, hein. Tous les métiers, toutes les spécificités sont représentées. Voilà, des spécialistes du lot partiel, du lot complet, de la messagerie en ambiant, température dirigée. Et puis effectivement aussi, comme on peut le voir sur la partie gauche du slide, une diversité aussi sur la taille des entreprises qui ont participé à cette enquête. Donc je vous propose maintenant de rentrer, voilà, dans le début de la présentation. Donc on a préparé un ordre du jour qui va se décomposer en fait en cinq thèmes. On va commencer par regarder un petit peu l'évolution de la demande de transport chez les chargeurs, l'offre mise à disposition côté prestataire. Dans un deuxième temps, l'idée va être de regarder un petit peu, bah, comment est-ce que ça s'équilibre au niveau du marché avant d'analyser les impacts côté finance chez les transporteurs. Pour poursuivre, on va regarder après, bah, quelles sont un petit peu les évolutions qu'on a pu observer au niveau des prix de marché, avant d'aborder plus précisément, voilà, le sujet de la stratégie des transporteurs qu'on va développer un petit peu plus longuement. Donc, bah, je passe la parole à Sabrina et Olivier, voilà, pour commencer sur la première partie sur l'offre et la demande.
Très bien, merci Luc. Alors pour cette première question, nous avons demandé aux transporteurs de nous donner une tendance sur l'évolution 2024 des volumes transportés et également sur la situation connue en 2023. Donc on voit qu'en 2023, les volumes ont majoritairement stagné ou baissé, ce que les transporteurs n'avaient pas forcément anticipé. Il faut voir qu'en 2022, les volumes étaient quand même présents et on se rapproche là maintenant de ce qu'on a pu connaître en 2020. Donc les transporteurs sont plongés dans l'incertitude et se préparent à des mois assez difficiles à venir. Olivier, est-ce que tu peux nous partager ta vision?
Oui, effectivement, une année 2023 en deux temps, je dirais, hein, une première moitié d'année avec une légère baisse d'activité et puis une amplification sur le deuxième semestre. Et intéressant lorsqu'on regarde l'analyse sectorielle, puisque nous sommes finalement dans cette profession que le reflet des différents secteurs d'activité français. Donc, quelques chiffres rapides à partager, hein, y compris les activités de e-commerce en vente de produits qui sont en baisse pour la première fois au troisième trimestre, les activités d'export qui sont également en retrait. des secteurs comme la chimie, pour prendre quelques exemples, ou le bricolage également. Finalement, on constate l'un des rares secteurs qui se maintient, voire qui se développe, l'automobile, hein, avec un nombre d'immatriculations de véhicules et puis une production qui reste à un niveau relativement élevé, ou qui reste encore à un niveau relativement élevé. Et puis peut-être un élément complémentaire lié à la consommation des ménages, qui sont plutôt passés en mode défensif pour protéger leur épargne, avec des restrictions et des arbitrages sur l'énergie, sur la consommation, sur l'alimentation et puis aussi sur les biens d'équipement durable. Donc voilà, une situation globale plutôt délicate, hein, sur la plupart des secteurs d'activité.
Merci Olivier. Alors passons maintenant à la question du recrutement des chauffeurs routiers. Donc, on a demandé aux répondants de nous dire tout simplement si dans le cadre de leur croissance, ils avaient recruté des chauffeurs en 2023 ou si du recrutement serait à prévoir pour 2024. Alors pour 2023, la tendance est plutôt à la baisse. Alors ça fait totalement sens effectivement avec ce qu'on vient de voir sur le ralentissement d'activité, mais c'est pas exactement le résultat miroir de la question précédente. On observe quand même malgré tout qu'il y a toujours du besoin en recrutement. Et donc que les transporteurs recherchent activement des transporteurs, et on note toujours une difficulté sur cette question. Olivier, est-ce que c'est partagé chez XPO?
Alors, c'est globalement partagé, peut-être avec une précision à apporter qui est qu'on a globalement un turnover qui s'est réduit et que les recrutements aujourd'hui sur les postes conducteurs sont plus sur du remplacement, hein, que sur de l'accroissement. Et malgré tout, il y a une tendance de fond qui reste à la difficulté à trouver des conducteurs routiers, d'où des besoins permanents, hein, de remplacement, également une pyramide des âges qui est difficile et qu'il faut petit à petit retravailler pour rajeunir nos équipes. Et puis peut-être un ou deux points complémentaires liés au fait qu'on travaille beaucoup la cooptation, hein, pour faire venir à nous des conducteurs par intermédiaire de nos propres salariés, et puis qu'on cherche également à développer la féminisation de nos équipes pour jouer la carte de l'augmentation des bassins d'emploi.
Très bien, c'est un constat totalement partagé avec nos chargeurs en flotte propre, hein, avec lesquels on travaille également et qui rencontrent les mêmes difficultés que toi, Olivier.
Et puis également, si je peux ajouter un point sur le développement de l'alternance, qui sur tous les postes d'ailleurs, un conducteur, mais aussi sur les postes d'équipe sédentaire ou d'exploitation.
Et de votre point de vue, est-ce que les problèmes de fond, voilà, sur le recrutement des chauffeurs sont résolus? Est-ce que voilà, vous identifiez une tendance qui va dans le bon sens par rapport à ça?
Non, les tendances de fond, elles sont là. Elles sont liées, comme je le disais, à la pyramide des âges. Donc, il y a un manque structurel de conducteurs qu'on estime en France entre 40 000 et 50 000. Et si la conjoncture, finalement, nous permet de passer l'année ou peut-être le premier semestre de l'an prochain, structurellement, on sait qu'on va avoir un besoin croissant de conducteurs, d'où les besoins de diversification, d'où les besoins de recherche de population, de féminiser la profession, comme je indiqué.
Très bien. En transition donc directe avec nos amis les chauffeurs, on va parler maintenant du parc de véhicules, hein, et toujours sur l'année en cours et sur les projections 2024. Voyons si les transporteurs ont prévu d'investir, hein, dans de nouveaux moyens, dans le but toujours d'accompagner une croissance de leur activité. Alors ici, à 42%, les transporteurs déclarent effectivement avoir investi en 2023 sur une flotte neuve. C'est légèrement en baisse, hein, comparé aux dernières années. Mais on peut imaginer aussi que ce taux puisse être un peu boosté par les retards de réception de commandes, hein, parce qu'on a connu pas mal de pénuries post-Covid. Et effectivement, en prévision pour 2024, la tendance resterait la même. Il faut aussi noter que les investissements aujourd'hui sont principalement faits sur des véhicules à énergie verte, hein, pour répondre, hein, de plus en plus à la question écologique de nos chargeurs. Olivier, qu'en penses-tu ?
Oui, absolument. Pour ce qui nous concerne, on maintient le même niveau d'investissement sur notre flotte avec un objectif de rajeunissement de notre parc qui avait été impacté, comme tu le disais, par les ruptures d'approvisionnement et les difficultés d'approvisionnement en sortie de Covid, hein, sur toute la chaîne logistique automobile et puis poids lourd. Donc, on est sur un effort de la part des OEM, de la part des constructeurs, de remettre en commercialisation et de livrer du parc qui avait été commandé. Et puis également, je partage le constat que nos investissements en matériel sont principalement fléchés, dirigés vers les véhicules avec des énergies alternatives. Malgré tout, ça ne représente encore qu'une part relativement modeste, hein, du parc, mais en flux, en quantité commandée, c'est là où on fait porter les efforts aujourd'hui.
Très bien, merci, merci à vous deux. Donc après avoir vu effectivement là comment avait évolué la partie offre et demande, on va s'intéresser maintenant sur les impacts au niveau voilà de la capacité et à l'équilibre capacitaire.
Ah, effectivement, Luc, hein, c'est une question phare, hein, celle de la capacité du transport routier. Et encore une fois, on leur a demandé si, selon eux, la capacité sur le territoire national est en adéquation ou non avec le volume à transporter. Et là, on observe cette année une situation qu'on n'avait pas retrouvée depuis 2013. Et on peut parler d'un retournement brutal de la capacité, hein. Effectivement, vous le voyez, 58% des répondants estiment être aujourd'hui en surcapacité, ce qui signifie donc avoir des camions à l'arrêt. Et c'est une situation à surveiller de près, hein, parce que malheureusement, on le sait, cette situation peut mener les transporteurs français à réduire leur flotte, voire même, pire que ça, donc à mettre la clé sous la porte. Et en tout état de cause, cette situation, elle leur est pas super favorable, donc par rapport aux négociations annuelles faites avec les chargeurs, hein. Donc voilà, Olivier, je ne sais pas si c'est une situation que tu retrouves également chez toi.
Alors, on va venir, hein, sur la partie négociation, mais sur la partie effectivement retournement capacitaire, c'est ce qu'on indiquait dans les précédentes minutes, c'est qu'on a senti venir ce retournement de situation finalement dès la fin de l'année dernière, et puis avec une amplification au fil des mois. Donc oui, aujourd'hui, l'écart entre capacité et puis demande est bel et bien là. Ça pose quand même la question effectivement de la santé financière, et on va aussi en parler, je pense, notamment des acteurs les plus petits, hein, qui constituent vraiment tout le vivier pour réaliser au quotidien les prestations. Donc tout cet écosystème, il est à risque. Quant à la question du dimensionnement du parc, on est amené, hein, pour ce qui nous concerne, à faire des ajustements de parc lorsque les activités ne sont pas là. Le pire pour un transporteur, c'est d'avoir du parc à l'arrêt avec des loyers qui tombent et pas de revenus en face. Ça, c'est absolument ingérable. Donc, on a la chance d'être aussi, pour ce qui nous concerne, dans un groupe important, donc de pouvoir faire des transferts de matériel d'une activité à une autre, d'un secteur à un autre, d'une agence à une autre. Donc, ça impose un jeu de jambes important, mais c'est une absolue nécessité pour s'ajuster finalement à la demande qui aujourd'hui est faible dans à peu près tous les secteurs.
Okay. Et votre ressenti par rapport à ça, c'est que cette situation, elle va être amenée à perdurer. Il y a des indices là qui vous permettraient d'y voir peut-être un peu plus clair sur une tendance à moyen terme?
Quand on regarde les tendances et le moral des affaires, si je regarde les études, notamment celle de Xerfi, qui est très intéressante, on voit que le moral des affaires, il est relativement moyen, pour pas dire bas. Ça veut dire que la perspective à moyen terme, donc au moins sur le premier semestre de l'année prochaine, elle est identique. Donc nous, on s'attend à une première partie d'année qui sera de la même veine que celle qu'on que ce deuxième semestre, et puis on anticipe sur un rebond ensuite avec peut-être un effet JO dans certains secteurs d'activité, notamment la consommation, et puis ensuite une deuxième partie d'année plus positive.
Très bien, merci, merci à vous deux pour ces éléments. Je propose maintenant qu'on passe au point suivant, à savoir finalement l'impact voilà, de ce qu'on a pu voir précédemment sur les finances des transporteurs.
Donc effectivement, après avoir abordé le sujet de la capacité, des volumes et de l'activité, forcément, la rentabilité des transporteurs peut être elle aussi mise sur la table aujourd'hui. Et on a demandé aux transporteurs si les objectifs fixés pour 2023 seraient finalement atteints. Et là, la réponse à plus de 60% est malheureusement non. C'est forcément la conséquence de la baisse d'activité qu'on a pu voir, mais également de la hausse des coûts de production qui se fait ressentir de plus en plus. Et effectivement, on peut se dire qu'avec les accords de hausse tarifaire obtenus en 2023, cela aurait pu suffire, mais malheureusement, encore une fois, ici, cette hausse n'a pas permis de couvrir l'inflation et n'a pas compensé les problématiques de rentabilité des transporteurs.
Oui, c'est vrai. Sur cette année qui n'est pas à la hauteur de nos espérances, maintenant, et je ne peux pas rentrer dans le détail des chiffres XPO puisqu'on est coté, on a des obligations de réserve, mais globalement, on maintient au prix d'ajustement une activité qui est dans la même veine que l'an passé, malgré les volumes qui sont en berne. Là où il faut faire attention, c'est que effectivement l'inflation, elle a, dans notre secteur, elle a continué à augmenter, contrairement peut-être à l'inflation générale qui s'est tassée. Si je mets de côté la partie énergétique qui s'est aussi calmée. En revanche, la difficulté pour la plupart des transporteurs a été de répercuter en totalité l'inflation qui a été subie, et notamment l'inflation sur les coûts de masse salariale, l'augmentation réglementaire des taux horaires sur les conducteurs routiers, et puis également conduit par un certain nombre d'autres postes de coûts comme la maintenance par exemple. On va rentrer un petit peu plus dans le détail ensuite, mais les indices, notamment les indices de la profession, ceux qui sont publiés par le CNR, le démontrent assez clairement. Alors, on n'a pas pu répercuter la totalité des coûts parce que le contexte, il est à la continuité de l'inflation sur ce secteur d'activité. Autre point peut-être, mais je crois qu'on va y venir un petit peu plus longuement, un point d'attention sur le financement des véhicules qui a fortement augmenté. Donc le coût du matériel a augmenté. On en parlait lorsqu'on parlait de transition énergétique et d'investir dans des véhicules avec des énergies qui sont plus de nouvelles énergies ou moins émetteurs en CO2. Il y a un coût de ces matériels qui est plus important. Et puis il y a également un coût du financement qui s'est renchéri avec l'augmentation des taux de crédit. Donc globalement, une année compliquée pour les finances du TRM, comme le titre l'indique, et un point de vigilance pour l'écosystème avec les entreprises de taille petite et intermédiaire.
Très bien, merci pour ces différents éléments. Donc, l'idée maintenant va être de poursuivre un petit peu cette analyse de marché au travers du prisme de l'évolution des tarifs de marché.
Merci Luc. Et on le sait, beaucoup d'entre vous attendent avec impatience la réponse à cette question ce matin. Et c'est en lien effectivement avec la rentabilité, la hausse des tarifs. Et la question qu'on a posée aux transporteurs, c'est quelle serait donc l'augmentation moyenne à prévoir lors des prochaines négociations? Donc, comme vous pouvez le voir, nous avions en prévision l'an dernier un plus 6%. Que les transporteurs ont plus ou moins tenu. Et cette année, nos transporteurs prévoient de revoir leurs tarifs à hauteur de plus 3,9% en moyenne. Alors effectivement, c'est moins important que l'année dernière, mais on aurait tendance, et surtout les chargeurs, à penser qu'avec la baisse des volumes, la surcapacité, les transporteurs seraient plus enclins à réduire cette hausse. Donc ici encore, comme l'a dit Olivier, le poids des coûts de production pèse énormément et cette augmentation leur permettrait tout juste de se maintenir à nouveau. Il faudra certainement encore une fois s'attendre à une nouvelle vague de négociations, comme on l'a pu comme on a pu le connaître en 2023 avec les transporteurs qui sont revenus à la charge autour de l'été, par exemple. Et juste hein, pour compléter sur la hausse à plus 3,9%, et pour répondre à une question qui nous a été posée au préalable, on a un détail à vous fournir, effectivement. On a plus 3% qui sont prévus sur la partie du métier lot et plus 4,4% pardon, sur la messagerie. Olivier, est-ce que ça correspond à ce que tu vois sur le terrain ?
Alors, ça amène plusieurs commentaires hein, déjà sur les répercussions de l'inflation au titre de l'année 2023, donc des négociations qui ont eu lieu à peu près à la même période il y a un an. C'est vrai qu'il y a eu un accompagnement et des discussions et beaucoup d'accompagnement de la part de nos clients et du monde industriel et distribution en général. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de l'ensemble des acteurs de la chaîne qui ont fait des efforts importants. Néanmoins, comme je l'indiquais, cette inflation, elle était inédite et l'ensemble de la profession a eu du mal malgré tout à répercuter la totalité. Donc, il manquait quand même quelques points d'inflation qui n'ont pas été couverts, qui ont été prises en grande partie sur les marges des entreprises de transport, d'où les tensions qu'on peut voir sur certaines entreprises. Ça veut dire qu'on aborde cette nouvelle année 2024 avec une double difficulté. D'abord, effectivement, un contexte, comme on le disait, de volume qui n'est pas là, qui n'est pas propice effectivement à la répercussion de l'augmentation des coûts. Il y a un équilibre qui doit se trouver entre les différents acteurs. Et ça, c'est une situation conjoncturelle et une difficulté de plus. Et je comprends comme cela la demande un peu plus modérée, un peu plus limitée à 3,9 en moyenne de la part des acteurs de la profession. Néanmoins, ce 3,9, il faut bien avoir conscience qu'une fois de plus, il ne couvrira pas l'inflation, inflation qui est grandement couverte par les augmentations de la masse salariale et notamment le dernier accord qui a eu lieu, hein, qui est applicable dès le 1er décembre, de cette année, donc depuis 15 jours maintenant, qui revalorise les salaires des conducteurs en taux horaire d'un peu plus de 5,4% et les frais de route associés. Donc déjà au 1er décembre, il y a une augmentation qui a lieu sur la masse salariale. Je passe les détails, mais effectivement, Sabrina, tu évoquais un certain nombre d'autres postes de coûts de production. On pourrait citer entre autres la maintenance, hein, qui est également sous l'impact des pièces détachées et puis des coûts de main-d'œuvre des mécaniciens augmentent très fortement, de l'ordre de 4,4% si j'en crois les chiffres du CNR. Et puis également, on peut citer d'autres postes de coûts auxquels font face les transporteurs, notamment les charges d'assurance, très significatives. Et puis tout ce qui a trait à l'informatique et à l'infosécurité qui devient clé et pour faire face notamment pour protéger les systèmes, nous protéger mais aussi protéger nos clients des cyberattaques qui ont lieu régulièrement. Donc en synthèse, des velléités de revalorisation aux alentours des 4% dans laquelle qu'on peut comprendre la situation de marché, mais qui ne seront certainement pas suffisantes pour couvrir la totalité des coûts. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des discussions qui peuvent être parfois âpres dans le contexte de faible volume qu'on connaît.
Très bien, merci Olivier, merci Sabrina pour ces différents éléments. Donc, on vous propose maintenant de passer à la dernière partie de notre institution sur le sondage, à savoir aborder les thèmes en fait associés voilà à la stratégie des différents transporteurs.
Oui, tout à fait. Et donc là, on va passer à la question des avantages concurrentiels. Hein, on le sait, la concurrence est assez rude, hein, surtout dans la situation qu'on connaît là en surcapacité de transport, comme nous le vivons en ce moment. C'est donc super important pour les transporteurs de se différencier. Et donc, on leur a demandé quels seraient leurs principaux avantages concurrentiels. Donc, toujours en tête des critères, on retrouve la qualité de service qui reste pour beaucoup de transporteurs leur marque de fabrique. Ils sont connu et réputé pour ça. Et beaucoup d'efforts sont déployés donc, pour maintenir de bons taux de service, hein, notamment dans les métiers, par exemple, de la messagerie. On parlait également des véhicules green, et là encore, les transporteurs ont mis en avant cette année une politique RSE forte, en offrant, entre autres, des solutions de transport décarbonées, en se labellisant, par exemple, ou en proposant des solutions alternatives. On voit là que le positionnement tarifaire est en retrait et on ne peut pas dire, hein, que ce soit une bonne idée de baisser les prix dans le contexte économique connu par les transporteurs.
Alors, je reprends sur le point de la qualité de service. Effectivement, c'est une nécessité, c'est un must-have. Hein. On sait que les attentes sont extrêmement élevées avec des taux de service qui parfois dépassent les 95, 96, 97% dans des activités de messagerie et de réseau, ce qui est un vrai challenge quand les volumes ne sont pas entièrement là, parce que ça veut dire maintenir des plans de traction, des départs réguliers, et donc pour garantir des délais. Donc une vraie difficulté et des efforts importants de révision, d'adaptation des plans de transport. Sur les activités de lot complet, il n'est pas rare que les niveaux d'exigence fixés par nos clients sont au-delà des 98, voire 99%, ce qui est le reflet des attentes qui leur sont assignées également par leurs propres clients. Donc, un système qui est sous tension, avec une attente de refaire le bon geste, de la bonne exécution au quotidien, qui est extrêmement important. Donc, je comprends parfaitement ce point de fierté, parce qu'on est dans la culture de la réussite et de la performance au quotidien dans les équipes d'exploitation, alors qu'on est dans un environnement qui est rempli d'aléas, on est sur la route avec toutes les contraintes que cela peut supposer. Donc, je partage pleinement ce point de qualité. Quant aux autres points, évidemment, la décarbonation, les efforts importants, la pression qui naît, le niveau d'exigences réglementaires qui augmente, on va en parler ensuite, et puis je sais qu'il y a déjà quelques questions qui sont arrivées sur le sujet. Donc, effectivement, disposer d'une offre plus large, green, qui répond aux attentes de nos clients, c'est une nécessité. Et puis après, le renforcement des offres commerciales, soit en élargissant l'offre, en allant vers peut-être des solutions plus larges, end-to-end, soit au contraire, pour certains, en se spécialisant et en étant dans sur des niches de marché, effectivement, différentes stratégies selon les différents acteurs du marché. Mais chacun cherche, dans un environnement extrêmement concurrentiel, à mettre en avant ses propres atouts, bien évidemment.
Très bien. Alors, sur la question suivante, hein, on demande aux transporteurs quels seront les chantiers prioritaires pour l'année à venir. Ici, encore, hein, vous le voyez, plusieurs propositions, hein, de l'acquisition de nouveaux clients, au déploiement d'outils, en passant également par une meilleure maîtrise de leur rentabilité. Et les transporteurs, cette année, semblent se concentrer principalement sur la recherche et l'acquisition de nouveaux marchés et donc de nouveaux clients, le renforcement des relations commerciales, hein, ce qui pousse forcément un développement commercial client existant, et bien entendu, toujours la maîtrise et l'amélioration de leur rentabilité. Là, ce qu'on comprend aussi, hein, directement, c'est que l'offre commerciale va être retravaillée de façon à séduire de nouveaux clients. Est-ce que, Olivier, est-ce qu'on peut parler d'oubli, de sujets, là, comme on voit par exemple que la digitalisation est légèrement en retrait par rapport aux années précédentes ?
Oui, c'est une bonne remarque, Sabrina. Je n'ai pas forcément d'explication particulière à ce thème, si ce n'est que c'est un sujet permanent. Et derrière digitalisation, il y a beaucoup de thèmes. Hein. Ça peut recouvrir aussi bien la digitalisation, la réduction du papier dans toute la documentation de la chaîne transport, tout comme on peut y mettre pour certains des investissements importants valorisés auprès des clients sur la visibilité, hein, le temps réel, et puis tout ce qui est lié à la ponctualité, à la traçabilité et aux attentes qui augmentent également de toute cette chaîne logistique et transport sur la ponctualité en livraison en quasiment dans l'immédiateté, avec derrière toute la notion d'alerte vers le destinataire lorsque il y a un retard qui est anticipé. Après, penser que, évidemment, la conquête commerciale, le développement de nouveaux clients, la dynamique, c'est une évidence hein, dans un contexte de marché qui est difficile. Penser que ça permettra d'enrayer la totalité de la chute des volumes, c'est assez illusoire. Néanmoins, il y a besoin de cette dynamique extrêmement forte de nouveaux clients et parfois au prix d'une certaine pression sur les prix puisqu'on est dans un environnement concurrentiel assez fort. J'insiste également sur la diversification sectorielle, hein, le fait également de pouvoir ne pas reposer uniquement sur un marché qui parfois se retourne, comme on l'a vu cette année, donc d'avoir pas avoir comme on peut le dire, ne pas avoir tous ces œufs ou tous ces clients dans le même panier, dans le même secteur, c'est important. Se concentrer sur les expertises que les uns et les autres avons et essayer de les répliquer chez les différents acteurs du secteur. Et développer cette expertise, trouver les secteurs ou les niches de marché qui sont les plus dynamiques. Voilà les quelques pistes pour repartir à l'offensive pour la plupart des acteurs du transport. Évidemment, ça passe, comme ça a été dit, par un renforcement des équipes commerciales, une montée en compétences, et puis également, peut-être comme jamais on l'a vu jusqu'à présent, des besoins de formation pour les équipes commerciales, y compris sur le matériel, les différentes énergies, les avantages et inconvénients, alors que jusqu'à présent, les matériels n'étaient pas au cœur, les énergies, les avantages de l'électrique, des véhicules gaz, du biogaz, j'en passe évidemment, n'étaient pas au cœur des discussions. Maintenant, on attend des équipes commerciales, des transporteurs, qu'elles soient quasiment des experts en motorisation, en véhicule, alors que ce sont évidemment nos partenaires constructeurs qui sont les experts en la matière. Donc, besoin d'investissement sur les équipes, mais aussi de formation importante, également sur toute l'évolution de la réglementation, pour pouvoir l'expliquer et puis expliquer ensuite la stratégie de son entreprise en la matière. Et puis, j'ajoute un dernier point qui me vient à l'esprit, c'est la gestion de la relation client qui est mentionnée et la gestion de la relation contractuelle, du respect des engagements des uns et des autres, investir dans cette gestion contractuelle, travailler au quotidien sur l'amélioration, sur les causes des difficultés et améliorer, donc travailler dans la durée avec ses propres clients pour améliorer la prestation, la renforcer, la rendre plus efficace. C'est aussi important à mes yeux que la conquête de nouveaux clients. Donc vraiment marcher sur deux pieds, hein, deux jambes, la jambe du développement commercial indispensable et puis celle de l'entretien, du développement, du renforcement de la relation avec les clients.
C'est vrai qu'à la lecture des différents résultats, on est un petit peu surpris aussi finalement de voir que tous des sujets, notamment sur la partie digitalisation, ne sont pas forcément mis en avant, pas forcément cités par les transporteurs. Est-ce que c'est un oubli de leur part ?
Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas comment il faut analyser, Luc, cet oubli. Est-ce que peut-être quelques pistes de réflexion. Est-ce que c'est finalement relégué ou délégué à des acteurs qui se spécialisent sur la maîtrise de l'information? Est-ce que c'est parce que, alors qu'il y a une pression importante sur les marges et que les investissements informatiques nécessaires à la digitalisation ne sont pas là ou ne sont pas priorisés par rapport aux investissements sur le parc? Je pense que c'est une pause. En tout cas, pour ce qui nous concerne chez XPO, on a des investissements IT liés à la digitalisation, y compris d'ailleurs à la façon dont on construit notre pricing, nos offres clients et notre pricing pour être dynamique, pour faire du yield management, hein, pour bien équilibrer le pricing en fonction de l'offre et la demande de la période. Également, la façon dont on gère le revenue management par secteur d'activité, par niveau de contrainte. Et là, la digitalisation, voire l'intelligence artificielle, est clairement un levier important pour avoir, je dirais, le juste prix pour chaque prestation au bon moment. Donc, on voit apparaître des outils qui, jusqu'à présent, n'étaient peut-être pas encore complètement adoptés par la profession du TRM et qui étaient peut-être plus des outils qu'on voyait dans d'autres secteurs de services comme l'aviation, par exemple, le transport de passagers ou bien comme l'hôtellerie, je pense, en particulier au yield management.
Très bien, merci Olivier pour ces précisions. Et donc en lien avec la question précédente, hein, que font concrètement les transporteurs pour rétablir la situation financière et pour sécuriser leur rentabilité? Alors ici, on voit trois axes clés, hein, on l'a dit, on en a beaucoup parlé, aller à la conquête de marchés plus porteurs, de marchés de niche par exemple, effectivement, qui présentent une situation un peu moins saturée en termes de capacité de transport. Et j'en profite au passage pour répondre à l'une des questions, hein, sur le chat, sur la partie pharmaceutique par exemple, où effectivement il y a peut-être un peu plus de mal à trouver des moyens. Là encore, c'est parce que globalement on parle de surcapacité sur le marché du général cargo, mais sur effectivement des marchés un peu plus précis, des marchés de niche, on a encore du mal à trouver des transporteurs en transport santé, en température dirigée par exemple. Là effectivement on voit encore quelques difficultés sur le marché pour nos chargeurs. Il y a également le levier tarifaire, hein, qui permet de maintenir et de développer les partenariats avec les clients les plus importants. Alors effectivement, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y aura toujours des aspects de renégociation tarifaire, mais pour certains et pour certains transporteurs, on voit qu'il y a des très gros clients qui sont fortement contributaires, notamment par exemple au sein de réseaux messagerie. Et donc là, ici, ils viendront probablement faire un effort supplémentaire pour ces clients-là. On retrouve, hein, l'amélioration de la productivité interne, il me semble qu'Olivier, tu l'as déjà un petit peu mentionné, et on est assez surpris finalement, hein, de voir que les transporteurs ne vont pas aller chercher la rentabilité en réduisant leurs propres achats en sous-traitance, mais d'un autre côté, un peu moins surpris effectivement parce que la survie des plus petits transporteurs est importante et je pense que des transporteurs tels que XPO par exemple tiennent absolument à maintenir cette qualité de relation et donc les tarifs entre transporteurs et transporteurs sous-traités. Est-ce que Olivier, c'est quelque chose que tu partages de ton côté?
Oui, alors il y a beaucoup de leviers effectivement qui sont actionnés en permanence, hein, beaucoup d'initiatives pour maintenir, développer la rentabilité. Un point important, c'est qu'on cherche à avoir un équilibre entre les prestations qu'on exécute avec nos propres moyens, nos propres salariés, nos propres conducteurs. On est un employeur important, conducteur routier, c'est important de continuer dans cette voie-là. Maintenant, on a également une part de nos activités qui est faite avec un certain nombre d'autres partenaires, d'autres transporteurs qui nous accompagnent avec performance et régularité depuis des années et on doit veiller à maintenir cet écosystème et on ne peut pas le pressuriser parce qu'il est déjà souvent sur des activités, sur des rentabilités qui sont extrêmement contraintes et non seulement il faut veiller à leur permettre d'évoluer, que ce soit sur leur part, que sur leur recrutement conducteur, sur la formation, mais également un point important que j'indiquais, c'est la pression qu'il y a sur la trésorerie. Donc, important de s'assurer que ces prestataires qui font vivre finalement au quotidien notre activité soient payés en temps et en heure, qui ne soient pas pris à défaut sur leur trésorerie. Peut-être d'ailleurs, ça permet aussi d'aborder un des points qui était dans les questions qui ont été reçues, hein, sur les défaillances d'entreprise. On voit, Luc et Sabrina, qu'on est sur des niveaux très élevés, hein, de défaillances d'entreprise, et ça nous ramène peut-être à 4 ou 5 ans en arrière, et il y a au fil des 3-4 dernières années une augmentation des défaillances d'entreprise. On est sur un rythme, sous ton contrôle Luc, de 180 défaillances par mois aujourd'hui, après des années où on était sur donc un accroissement des défaillances de l'ordre de 20-30% par an sur ces dernières années. Donc, grosse vigilance sur tout l'écosystème des plus petits acteurs qui sont indispensables. Et puis, comme je l'indiquais précédemment, travaillé sur le revenu management, les prestations, le niveau d'exigence de certains secteurs, le niveau de contrainte également, doit permettre d'avoir une valorisation différente, que ce soit en lot partiel ou en messagerie, palettisée pour ce qui nous concerne, de prestations plus basiques. Donc, il faut vraiment adapter la tarification à chaque activité pour avoir une rentabilité ligne par ligne et puis également savoir adapter le niveau d'exigence et de revalorisation également au niveau de rentabilité des activités. Il est certain que des activités aujourd'hui qui sont peu ou pas contributives, on aura plus tendance à être ferme sur des demandes de revalorisation et d'impact de l'inflation.
Merci Olivier. Alors effectivement, on en parle un peu là de beaucoup, même depuis le début de ce webinaire, et c'est désormais un sujet clé et très très important pour tous les acteurs du transport routier de marchandises. Et bien entendu, hein, quand on dit acteur, ça va être transporteur tout comme chargeur. On va parler de la décarbonation. Effectivement, nous avons demandé aux répondants donc sur quels aspects pensent-ils avoir le plus de retard sur le sujet. Parce qu'encore une fois, c'est une demande assez forte hein, des chargeurs. En tête, on voit que l'offre multimodale donc est un peu en retrait. Donc beaucoup de chargeurs en font la demande et la réponse n'est pas forcément à la hauteur hein, des attentes. Malheureusement, sur cette solution, les transporteurs sont encore confrontés à des difficultés infrastructurelles, mais également à une réponse assez faible des retours sur certains axes rail-route. Ils estiment également être en retard sur les énergies alternatives. Alors, ça vient se compenser, hein, effectivement, parce qu'il y a de plus en plus d'investissements dans des véhicules à biocarburant et bioénergie, mais effectivement, encore un petit peu en retrait sur ces solutions. Et il y a encore pas mal d'efforts à faire. Dans le top 3, donc, la demande des chargeurs sur le calcul précis des émissions de CO2, Et là, encore une fois, on connaît tous la tâche assez difficile de nos amis transporteurs hein, de venir calculer précisément les émissions du transport. Hein. Et effectivement, ils estiment aujourd'hui ne pas être au point sur cette demande précise des chargeurs. Notons également voilà, que le calcul reste assez complexe et souvent on retrouve pas mal de formules différentes utilisées, donc beaucoup d'écarts constatés sur des calculs réalisés par les transporteurs. Olivier, je te laisse nous donner ton point de vue sur la question.
Oui, merci. Alors, c'est sûr que la pression réglementaire, elle se renforce et je comprends assez bien effectivement les attentes qui sont exprimées, qui sont celles que nos clients nous expriment au quotidien. Et avec une très forte attention, notamment sur le scope 3, hein, donc tout ce qui est toutes les émissions indirectes que nos clients cherchent à réduire le plus rapidement. Alors, le report modal, les offres multimodales, c'est effectivement l'une des pistes, très intéressante parce qu'elle permet en général, lorsqu'on arrive au bout d'une solution, à faire du report assez massif, lorsque l'on met plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de véhicules sur un train ou sur le fleuve, par exemple. Maintenant, c'est vrai que ce sont des projets au long cours, qui nécessite plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, pour étudier la solution avec nos équipes d'ingénierie, pour faire des tests, pour arriver à un équilibre économique, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que bien souvent, les offres multimodales sont plus onéreuses que les offres routes, que les solutions camions, qui restent le moyen le plus pertinent, le plus économique. Donc, il y a un effort de nos clients qui est souvent consenti, hein, avec une élasticité prix qui varie d'un secteur à un autre, d'un client à un autre, mais qui n'est pas non plus infini. Donc, avant d'arriver à une solution qui fonctionne, qui soit opérationnelle, il y a souvent plusieurs mois qui s'écoulent. D'où cette perception d'écart, effectivement, entre les attentes des donneurs d'ordre et puis le report modal que toutes les entreprises ne sont pas en capacité de déployer du jour au lendemain. On est également très contraint par les infrastructures hein, qui sont pas toujours à niveau et qui nécessitent énormément d'investissements. Et aujourd'hui, ces investissements, les pouvoirs publics ou les acteurs privés sont en tout cas, les pouvoirs publics ne ne sont pas toujours à la hauteur des attentes sur les investissements, et les investissements reposent en grande partie sur les acteurs privés, et donc ça rend l'équation un peu plus compliquée. Quant aux autres thèmes, effectivement, les investissements sur du matériel alternatif, moins émetteur, avec des motorisations alternatives, il faut savoir que les rapports de coûts, hein, si je prends un véhicule électrique, par exemple, par rapport à un véhicule traditionnel gasoil, on est dans un rapport de 1 à 2,5, 3. Donc, je laisse à chacun mesurer les efforts qui doivent être faits et aussi les attentes de retour sur investissement. Lorsqu'on investit 2,5 fois plus, évidemment, on attend un retour sur investissement qui est plus important. Donc, dans un marché qui est contraint aussi sur ses marges, l'équation n'est pas toujours facile à réaliser. Voilà pour les principaux points. J'ajoute que on fait travailler, mais comme la plupart de nos confrères, hein, nos équipes d'ingénierie sur des solutions. Et ensuite, on parlait de la mesure des émissions carbone, donc c'est une attente, c'est une obligation aussi légale que de les fournir. Les calculs sont complexes, mais finalement, le plus difficile pour les prestataires, c'est la data, c'est de réunir de la data de qualité. C'est assez simple, il nous faut les distances et il faut les poids transportés. Mais il faut agréger toutes ces informations, il faut déjà en disposer, parce qu'on n'a pas systématiquement aussi à disposition de la part de nos clients tous les éléments. Et ensuite, on peut procéder au calcul des émissions avec les règles qui sont celles fixées avec l'ADEME en particulier. Mais le plus gros challenge, c'est la récupération de données de qualité pour pouvoir faire ensuite des calculs précis.
Très bien. Merci Olivier. On passe à la prochaine question, hein, qu'on a posée aux transporteurs. Et là, cette fois-ci, sur la digitalisation, on en a déjà beaucoup parlé, donc ça risque d'aller un petit peu plus vite, je pense, pour cette question-là. Mais encore une fois, ce sur quoi ils estiment avoir du retard côté digitalisation. Donc, on le voit, la décarbonation, hein, s'invite encore une fois ici. Et les transporteurs estiment ne pas être encore assez matures, hein, sur les outils qui permettent de calculer les émissions pour tous les éléments que tu as cités également, Olivier. Certains TMS le proposent, hein, directement, donc ça aide. Mais effectivement, des outils existent et les transporteurs ne sont pas encore tout à fait équipés. On voit également la partie dématérialisation, notamment sur les process administratifs et comptables. Voilà, des actions très chronophages, hein, pour les transporteurs et les équipes. Donc, c'est un axe de travail pour eux. J'imagine, Olivier, que ce qu'on voit là, hein, c'est à peu près ce que tu nous décrivais déjà un peu tout à l'heure. Est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Non, je pense qu'on retrouve la quasi-totalité des sujets évoqués, dématérialisation des documents administratifs, des preuves de livraison, mise à disposition de ces informations sur des portails ou des fichiers partagés pour nos clients, le track and trace, le TA, l'alerting, donc beaucoup d'attentes également sur l'information, hein, qui devient clé, qui est au centre des enjeux de digitalisation, et puis ensuite également la partie reporting a posteriori avec les outils de BI, et puis effectivement j'ai ajouté un point autour du pricing dynamique, et il y a tous les outils qui s'appuient sur la data. Les données de marché également qui sont très importantes, parce qu'on est sur certains marchés de plus spot, il y a une vraie dynamique du pricing. Auparavant, on faisait un prix et puis il était valable pour 6 mois ou pour 12 mois, et il y a toujours des attentes fortes en la matière, mais avec les fluctuations au quotidien ou à la semaine, il s'agit de bien intégrer toutes les données du marché sur les prix et les marchés spot. Donc, on se retrouve dans tous ces éléments de digitalisation qui nécessitent, pour le coup, également beaucoup d'investissements IT et de ressources. Et ce n'est pas aujourd'hui forcément peut-être c'est le lien qu'on peut faire avec l'interrogation du début de Luc. C'est aujourd'hui une difficulté, un vrai challenge pour les acteurs du marché de mener leurs investissements et sur le parc matériel, et également sur la digitalisation, et d'avoir les ressources pour conduire les projets.
Très bien. Merci, Olivier. Donc, on va clôturer sur une dernière question. Donc, on parle maintenant de coopération entre transporteurs et chargeurs. Et effectivement, les transporteurs ont aussi besoin des chargeurs pour leur propre amélioration continue. Et donc, on a demandé aux transporteurs ce sur quoi les chargeurs pourraient faire des efforts. Alors, globalement, les transporteurs sont assez satisfaits de la qualité des échanges et de la relation avec leurs clients, hein, on le voit. Et ce qu'on voyait auparavant, hein, sur les années précédentes, il y avait un irritant sur les temps d'attente, par exemple, au chargement, au déchargement, donc qui s'estompe un petit peu, notamment dans la grande distribution, puisqu'il y a l'apparition de nouvelles lois type Egalim 2 qui permet de réduire un petit peu cette charge. En revanche, on note un manque de flexibilité des chargeurs et un manque de fiabilité dans leurs prévisions. Donc, ce qui ne permet pas aux transporteurs d'ajuster les moyens et d'optimiser au mieux leur planning. Donc, Olivier, pour cette dernière question, est-ce que tu es aligné avec ces constats ?
Oui, absolument. Alors, bah, je note simplement que nos grands clients font des efforts extrêmement importants de prévision et surtout de partage des prévisions le plus en amont, prévision à un mois, prévision à la semaine également, mais que c'est difficile pour eux dans un environnement économique extrêmement compliqué qui est vraiment marqué par des ruptures de consommation, difficile pour eux de prévoir, mais en tous les cas, il y a une volonté extrêmement clair de partager les informations dont ils disposent pour mieux anticiper. Alors, c'est sûr que c'est plus facile quand il y a moins d'activité parce que la flexibilité est plus simple à trouver. Et puis, sur l'autre point que tu évoquais, Sabrina, je vois aussi apparaître des espèces de petits TripAdvisor, si je peux dire, de petites notations des sites, hein, sur lesquels il y a encore parfois des difficultés de chargement. Mais globalement, on note qu'il y a des efforts importants de la part des sites industriels, des bases de distribution pour l'accueil, la qualité de l'accueil, la qualité des facilités qui sont offertes aux conducteurs et également la planification pour éviter d'avoir des temps d'attente importants et pour le confort des équipes, évidemment, pour le respect de base des conducteurs et également pour libérer de la capacité et puis être plus fluide dans les mouvements de transport.
Très bien, merci Olivier, merci Sabrina pour ces différents éclairages. Je vous propose maintenant qu'on passe à la dernière partie de cette session, à savoir la séance de questions-réponses. Donc merci déjà à tous les participants, on a eu pas mal de sujets qui sont venus alimenter la discussion. Certains ont pu être traités effectivement au travers de l'intervention de Sabrina et Olivier. Parmi les différentes questions qui ont été posées, il y avait un sujet qui concernait les évolutions en termes de réglementation, notamment tout ce qui tourne autour des différentes ZFE dans les grandes métropoles. Olivier, Sabrina, à votre avis, comment est-ce qu'on peut faire pour anticiper au mieux finalement ces évolutions de réglementation ?
Sabrina, tu veux me dire un mot et puis je compléterai ?
Sur cette question, j'ai pas vraiment de retour là directement à faire. Je ne sais pas si toi, Olivier, tu aurais peut-être un peu plus de matière.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a un durcissement des contraintes, hein, notamment pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants à partir de 2024, fin 2024 ou 2025, avec encore un peu de flou sur le calendrier. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les accès au centre-ville seront restreints pour les véhicules utilitaires légers, pour les PL, les plus polluants. Donc, quels sont les leviers dont on dispose, hein, si j'essaye de synthétiser rapidement? Le premier, c'est, on l'a évoqué, c'est la substitution de la flotte, substituer une flotte polluante par des véhicules qui sont moins émetteurs en polluants et en particules. Le deuxième, c'est de travailler sur la formation des conducteurs, entre autres à l'éco-conduite, hein, pour réduire les consommations. Le troisième levier, c'est la massification, donc le travail d'ingénierie, ensuite de consolidation des flux. Un autre levier important, c'est l'optimisation de tous les plans de transport. Et puis, peut-être un dernier point qu'on peut citer pour travailler sur l'accès ZFE, c'est le report modal et l'utilisation notamment du fleuve dans les villes qui sont, comme c'est souvent le cas en France, qui sont traversées par des fleuves ou des rivières.
Très bien, merci pour ces différentes précisions. Alors, peut-être un petit peu sur le même thème, on a pas mal de questions aussi qui tournent autour des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu l'année prochaine à Paris. Est-ce qu'on y voit clair? Est-ce qu'on a une idée un petit peu voilà, sur les impacts d'un point de vue circulation qui vont être voilà, induits en fait, par l'organisation de cette manifestation? Comment on peut anticiper ça en fait?
Alors Jeux Olympiques... de Paris, mais aussi sur des sites de banlieue et aussi dans les grandes villes de province, pour le plus grand plaisir de tous. Comme on le disait, Luc, il faudrait presque un webinaire spécial Jeux Olympiques, hein, parce que le thème est vaste. Non, ce qu'on peut dire très synthétiquement, c'est que les décrets sont sur les voies réservées à des véhicules accrédités du 1er juillet jusqu'à mi-septembre sont là, et je pense qu'il faut renvoyer vers les publications soit des fédérations de transport, par exemple ceux de la FNTR, ou bien du ministère du Transport pour se tenir au courant et puis petit à petit, alors que les échéances vont arriver, avoir une très bonne compréhension et adapter son plan de transport à ce qui va être une période extrêmement réjouissante du point de vue de la fête olympique, mais sans doute compliquée d'un point de vue logistique.
Effectivement, hein, Olivier, pour compléter, on parle des JO qui auront lieu dans quelques mois, mais on commence déjà à ressentir un peu les impacts hein, sur les infrastructures, hein, surtout en région Île-de-France. Donc voilà, il y a un gros point de vigilance pour les transporteurs et nous, on ressent quelque part un peu d'inquiétude de certains chargeurs qui nous posent la question à savoir est-ce qu'il y a des précautions à prendre, est-ce qu'il faut tout de suite effectivement retravailler les plans de transport. Donc voilà, n'attendons pas le mois de juillet hein, pour s'inquiéter et commençons dès à présent à travailler sur la question.
Merci. Alors une autre question qui concernerait finalement un petit peu voilà l'offre des transporteurs sur voilà qu'est-ce qu'on alors ma question je pense s'adresse plus particulièrement à Olivier hein, qu'est-ce qu'on pourrait effectivement préciser par rapport voilà au potentiel d'élargissement de l'offre des transporteurs que tu as évoqué un petit peu précédemment dans le cadre de la présentation. Et il y a un autre point effectivement qui a été soulevé qui correspond plus précisément à l'avenir de solutions, voilà, de solutions intégrées type 4PL.
Alors vaste question effectivement sur l'élargissement de l'offre. Là, je pense que c'est intimement lié à la stratégie de chaque entreprise de transport. Hein. Comme je disais précédemment, soit certains vont essayer de se spécialiser sur un axe ou sur une prestation bien particulière ou sur des marchés de niche. Pour ce qui nous concerne, on est plutôt dans sur une stratégie plus large, hein, d'avoir une offre end-to-end, d'être capable d'adresser aussi bien des sujets multi-modes de transport, donc d'aérien, de routier, de maritime, de logistique également, pour pouvoir accompagner, intervenir sur toute la chaîne logistique de nos clients. Mais là, chacun sa stratégie. Et puis, sur le sujet du 4PL en particulier, donc de l'externalisation du pilotage de la logistique, c'est la question cyclique finalement, du make or buy, hein. Est-ce que je fais ou est-ce que j'externalise la prestation. Globalement, la tendance qu'on constate, nous, chez XPO, c'est des activités qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement recherchées. Pourquoi? Parce que ça permet finalement d'avoir des ressources et des outils mutualisés pour accompagner la transition, tous les sujets qu'on a vus finalement, hein, de la transition vers moins d'émissions carbone, la mutualisation des flux, la digitalisation également des éléments, et puis non seulement de penser, de concevoir les plans, mais ensuite de les exécuter avec des engagements et un suivi de résultats par les équipes. Donc une tendance plutôt de fond à l'externalisation et au pilotage de flux 4PL.
Okay. Effectivement, Olivier, pour compléter, on le voit beaucoup, de plus en plus, nous, dans nos missions conseils, hein, les transporteurs nous sollicitent également pour répondre à des questions stratégiques, donc pour voilà, changer d'orientation, réfléchir sur de l'externalisation, de la réinternalisation. Tous ces sujets hein, que tu viens d'évoquer sont de plus en plus importants pour les transporteurs.
Bien sûr.
Peut-être une dernière question, effectivement, avant de clore cette session sur un sujet qu'on a peut-être un petit peu moins abordé, qui concerne la qualité de service. On a un participant à la réunion qui met en avant une observation d'une baisse de qualité de service en fait chez les transporteurs. Est-ce que par rapport à ça, c'est un constat que vous partagez? Si oui, après, quelles pourraient être un petit peu les explications par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées?
Bon, la question est large et à regarder évidemment dans le détail. Ce que je peux dire, c'est que l'un des challenges, notamment dans la partie messagerie palettisée, avec moins de volume, c'est de continuer à maintenir un plan transport qui soit aussi efficace, aussi pertinent, avec autant de départs finalement. Ça a été un des gros challenges sur lesquels on a travaillé sur la première partie de l'année, et on a pu constater en toute transparence, parfois sur certaines régions, la difficulté à maintenir ce service. On a énormément travaillé, pardon, sur la façon dont on pouvait refondre et optimiser nos plans transport. Et aujourd'hui, je le dis de façon assez transparente, mais on constate qu'on a une remontée de la qualité de service sur nos activités messagerie palettisée. Et c'est vraiment un point, c'est le point sur lequel on est le plus attentif, parce qu'avant de conquérir de nouveaux clients, il s'agit de délivrer la qualité de la prestation à nos clients existants. Donc, c'est souvent, comme je le disais, le must d'avoir une qualité de service qui soit au niveau des attentes. Donc, je pense que c'est assez partagé par l'ensemble des transporteurs d'être extrêmement attentif à la qualité délivrée et puis surtout à l'analyse des causes lorsqu'il y a défaillance, et puis à la mise en place ensuite de plans d'action spécifiques qui souvent sont coordonnés d'ailleurs entre les différents acteurs de la chaîne pour un retour à une performance.
Sabrina, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet ?
Non, mais effectivement, la question aussi concernait la partie qualité de service et service client directement. Alors, on ressent quand même une certaine tension vis-à-vis de la situation actuelle sur le personnel directement en charge du contact client, de la gestion des chauffeurs, etc. Donc, forcément, ça doit aussi se ressentir sur le client. Donc, c'est certainement, une situation un peu complexe pour eux, donc qui est ressenti malheureusement par les chargeurs directement.
Très bien. Écoutez, on est arrivé à l'issue de l'heure qu'on s'était donnée pour vous restituer un petit peu le résultat de cette enquête annuelle qu'on mène auprès de la communauté des transporteurs. Je tiens à remercier effectivement les intervenants, Sabrina et Olivier, pour leur participation, leur analyse et la pertinence de celle-ci, ainsi que tous les participants à cette session, aux différentes questions qui ont pu être posées. Donc, comme je le disais en amont, les questions qui n'ont pas pu être traitées, on y apportera une réponse complémentaire à l'issue de la session. Et puis donc on va clore celle-ci, et n'hésitez pas effectivement à rester connecté encore quelques instants pour répondre au questionnaire de satisfaction. Voilà, merci, bonne journée à tous, au revoir.
Merci à toi Luc, merci Olivier, au revoir.
Merci, bonne journée.